chez Ivancy à 25 salariés, on avait un organigramme, à 50, on avait un autre, à 75, on avait un autre, à 100, on avait un autre. Et chez Skippers, à 500, tu avais un nouvel organigramme qui était fait. Et en fait, là où il faut que tu réussisses à te projeter, c'est quelle typologie de personne tu as besoin, comment tu vas faire évoluer tes pôles. Ensuite, c'est qui va prendre, par exemple, la tête de ce nouveau pôle-là, qui tu vas faire monter. Est-ce que tu recrutes en interne ou en externe, qui t'arrive projeté, combien ce pôle-là va te coûter versus le chiffre que tu vas réussir à faire ou versus le cash que tu as. Il faut que tu te poses les questions aussi en interne. Alors, si c'est une fusion à deux personnes équivalentes, laquelle tu souhaites garder, comment tu prends cette décision-là, parce que quand tu fusionnes 550 salariés, ben, t'as des doublons. Donc, qui tu vas décider de faire monter et pour quelles raisons? Donc, est-ce que tu fais des entretiens, tu vas échanger avec, combien de temps tu leur laisses à travailler dans l'opérationnel, quels sont tes choix? Donc, tu fais une scorecard, des critères. Donc ça va être important aussi. Mais je sais que moi, j'avais eu beaucoup de difficultés. Et pour donner un exemple, c'est est-ce que les PMM, je les mettais dans le produit ou je mettais dans le marketing? Est-ce que la data, je mettais sous la tech ou je mettais sous le produit ou je faisais un pôle à part? Donc, c'est typiquement le type de questions qu'on peut se poser et qui ont un vrai impact en fait sur la santé de la boîte.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SaaS Club et aujourd'hui, je reçois un serial entrepreneur que vous connaissez peut-être. Il a monté une startup SaaS dans jusqu'à 7 millions d'ARR avant de la revendre et là, il lance un tout nouveau projet, un SaaS B2B qui s'appelle Zelic. Salut Dorian.
Hello Eric, super content d'être avec toi. Bon, en forme, hein. Et toi, ça va?
Écoute, tu fais partie de mon dernier marathon de podcast avant l'été. Donc voilà, je suis super content qu'on enregistre. On avait enregistré ensemble aussi pour Start to Scale.
Oui, exactement.
Des super épisodes et je vous les mets en description. Trop content de t'accueillir. On s'était dit qu'il fallait se faire un épisode ensemble à l'issue de notre enregistrement. Et comme tu étais entre deux aventures, en tout cas, tu avais vendu à Ivancy. Puis tu venais de lancer Zelic, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme épisode ensemble et je me suis dit ça serait bien de faire un format un peu bucket où on va partager un peu tes différents apprentissages sur plusieurs thématiques et on en a défini plusieurs. On va parler d'exit, on va parler d'organigramme de startup, on va parler de culture, de vision et enfin de fusion si on a le temps. En tout cas, ça c'est la théorie. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore?
Avec plaisir, content d'être avec toi à nouveau, toujours un plaisir. Dorian, 32 ans, issu d'une petite ville dans l'est de la France, CEO et cofondateur de Zelic. J'ai monté la boîte avec Guillaume et Victor. On est aujourd'hui 25, principalement des développeurs du produit et de la data, et on développe un tools pour aider les commerciaux dans leur prospection, donc le All-in-One Platform. On permet de trouver les leads, d'enrichir les leads et de prospecter sur du multicanal. On a levé 5 millions d'euros en pré-seed from day one, depuis le lancement de la boîte, qui est une des plus belles levées, en tout cas pour commencer un projet en Europe. On a sorti la bêta, on commence à avoir les premiers users sur la plateforme, donc c'est assez incroyable, on commence à avoir les feedbacks. Et on commercialise bientôt l'outil, donc il est bientôt prêt à la commercialisation et on a hâte. Et avant ça, j'étais CEO et cofondateur de Ivancy, une société que, comme tu as pu le dire, que j'ai développé de 0 à 7 millions d'ARR, 90% via du cold call en l'espace de 5 ans. On a fait 35% de ce chiffre hors France, entre l'Espagne et l'Allemagne. On a élevé 6,5 millions entre le dilutif et le non-dilutif. Et on a revendu la société à un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG, qui a fait du build-up. Et dans le build-up, ils ont racheté différentes sociétés. Donc, ils ont fait un conglomérat autour de Avis Vérifié. Et donc Skipper, c'était 550 personnes sur plusieurs continents, leader de l'expérience client. Et j'ai fait un an en tant que SVP General Manager Europe, hors France. Et ensuite, j'ai quitté le groupe, un peu de repos.
Ouais.
J'ai été business angel, board member de différentes boîtes, LP, j'ai investi dans des fonds. Et au bout de 4-5 mois, je me suis dit que je m'ennuyais à la maison et qu'il me fallait du challenge. Et là, j'ai décidé de lancer Zelic.
Trop bien. Bah écoute, je vais te lancer peut-être sur le sujet de l'exit pour commencer. Comme ça, ça fait la transition parfaite. Alors, l'exit, il y a pas mal de founders qui en rêvent. Hein. De toute façon, tu ne montes pas une boîte pour, voilà, pour faire du, entre guillemets, du social. Le but, c'est de faire du profit et revendre ou introduire en bourse. Et donc, toi, tu as vendu à IVSI. Et je me rappelle, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode-là, quand Shine a été vendu à la Société Générale, il y a eu ce débat entre... les gens qui disaient c'est trop tôt et les autres qui disaient bien joué. Donc sur le sujet de l'exit, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est quoi un peu les idées reçues que tu as pu entendre?
Ouais, premièrement, l'influence marketing, pour moi, ce n'était pas une passion. C'était un vrai sujet business. J'ai adoré l'entrepreneuriat, ça me passionne. C'est pour ça que je me suis renoncé. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose, quand je me levais le matin, je me disais waouh, je fais de l'influence marketing. Donc on savait avec Sylvain qu'un jour ou l'autre, en fonction de l'attraction, on allait vendre la société. Mais on ne connaissait pas la temporalité. On savait pas si on allait la vendre à 5 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être même avant, hein, pourquoi pas. Et sur l'exit, je pense que ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, de qu'est-ce que vous voulez en tant que cofondateur, quelle est la valorisation actuelle, quelles sont les sociétés potentiellement intéressées pour vous acheter, sous quelles conditions, que ce soit la valorisation, l'earn-out, les levers, voilà, qu'est-ce qu'on met dans le contrat de vente, le SPA. Les questions à se poser aussi, c'est est-ce que c'est le bon moment? Donc, parce que si on fait une très grande traction, c'est vrai qu'on peut se dire, mais si j'attends 1 ou 2 ans, je peux me revendre encore plus cher. La problématique, c'est qu'on ne connaît pas l'économie, comment ça va évoluer, donc les valorisations. On ne sait pas si on va garder cette traction-là pendant combien de temps. Donc, on continue de se mettre à risque. Et on n'a pas tous les jours les planètes qui s'alignent pour réussir à vendre sa boîte et avoir des acquéreurs intéressés. Et donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et il faut après pondérer et voir qu'est-ce qui est le mieux, en tout cas pour les cofondateurs, s'il y a des investisseurs pour les investisseurs et aussi pour les salariés, s'il y a des salariés intéressés. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais. On ne saura pas. Même pour IVNC, on peut se dire, bah, si on a gardé la boîte plus longtemps, on aurait peut-être encore vendu plus cher. Mais bon, ok, on aurait fait beaucoup plus d'ARR. Par contre, les valos avaient diminué. Est-ce que ça se serait équilibré? Si j'avais levé des fonds, j'aurais une valo beaucoup plus élevée.
Tu serais dilué encore?
Je me serais dilué, donc j'aurais dû faire un milestone beaucoup plus large pour réussir à atteindre le niveau dans lequel j'étais. Voilà, il faut prendre vraiment tous les éléments en compte.
Et non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est une réflexion globale. Il n'y a pas que le sujet du pricing, il y a le sujet, de l'attraction commerciale et comment tu es capable de maintenir ça ou de l'accélérer. C'est quoi un petit peu, toi, si tu devais conseiller, en tout cas si tu as un founder qui venait te voir en te disant bah voilà, on m'a fait une offre et tout, ce serait quoi un peu tes conseils sur peut-être les points d'attention, sur les clauses, sur peut-être la transition?
Premièrement, si je reçois une proposition, donc je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, hein. Je reçois ma proposition, je regarde le projet, est-ce que je me vois dans le projet? Combien de temps je dois rester dans le projet? Donc, est-ce qu'il y a un earn-out, c'est-à-dire est-ce que je prends une partie de mon cash tout de suite et si une deuxième partie de mon cash en fonction des objectifs à atteindre? Et si c'est ça, mais combien de temps? Ensuite, je ferai attention aussi, c'est que si j'ai un earn-out et qu'on me rachète, est-ce que je reste maître à bord de ma boîte pour continuer à développer la société? Parce que si je suis englouti et que je suis plus maître à bord, ben est-ce que je vais réussir à atteindre mon earn-out ou pas? Parce que ça va dépendre de la stratégie du groupe. Il faut regarder également, on peut poser la question du package salarial, quel est le package qu'ils mettent à disposition, c'est quoi le poste qu'ils vont t'attribuer quand tu rejoins le groupe, donc comment en fait ils te projettent dans la fusion, dans le rachat. Est-ce que la vision est la même, donc est-ce que tu te vois dans cette vision là travailler avec ces équipes, est-ce que tu as un bon fit avec la boîte qui va te racheter, est-ce que tu es à l'aise de te dire tu vas travailler X temps avec eux, est-ce qu'ils reprennent 100% des salariés, est-ce qu'ils vont réinvestir dans ton projet également, est-ce qu'ils, si ton projet te tient à cœur et tu souhaites voir développer le produit, donc est-ce qu'il y a un investissement qui va être mis dans ton produit pour continuer à le développer, voilà, il faut se poser vraiment toutes ces questions-là avant le rachat, la valorisation. Et ce que je ferai également, c'est que je ferai monter un peu la sauce, c'est-à-dire que je contacterai d'autres boîtes similaires pour essayer d'avoir d'autres propositions et d'avoir le meilleur deal possible. Et donc, il y a les cabinets M&A peuvent aider aussi sur ce sujet-là, de faire monter un peu la tension sur le deal pour avoir la meilleure offre possible. Mais voilà, c'est les conseils que je donnerai, en tout cas les premières questions que moi je me poserai dans cette situation.
Et typiquement, là, sur le fait de passer par un cabinet de conseil en M&A, c'est valable, selon toi, peu importe la situation, qu'on soit dans une recherche active de vente ou plutôt dans une démarche où on a été sollicité. C'est quoi ton avis là-dessus?
Les deux sont possibles. Après, si on a été sollicité, on peut peut-être négocier pour que le pourcentage soit moins élevé. Ça se négocie généralement. Par exemple, sur une levée de fonds, le cabinet il va te prendre entre 4 et 7% en fonction des cabinets. Sur une vente, ça va dépendre. Tu peux faire une pyramide avec du dégressif en fonction du montant et te mettre d'accord sur les différentes étapes. Mais oui, le cabinet peut t'aider à te structurer. Après, il faut un bon avocat aussi pour la relecture du contrat, pour t'accompagner sur ta data room, sur le plan juridique, pour t'aider aussi dans la négociation de ton pacte. Tu vois, nous, on avait 160 pages rédigées en anglais à comprendre. Donc, ça a pris, le deal a commencé en mars-avril et il s'est finalisé fin octobre.
Donc voilà, ça a été quand même rapide.
Ça a été rapide, mais c'est quand même long.
Oui, j'imagine que toi, de l'autre côté, quand tu attends le chèque et que pareil, tu dois prendre des décisions en parallèle qui prennent en compte justement ce process, c'est le temps est long.
Ouais. Et donc, le cabinet d'M&A, c'est super bien. Ça peut faire tampon, mais le bon avocat aussi. Parce que toi, ça te permet d'être en dehors des sujets un peu touchy ou difficiles à négocier où tu dois être en frontal et tu laisses tes experts s'en charger. Bien sûr, si après il faut trancher, et si t'es pas d'accord avec ce qu'ils proposent, bah tu rentres dedans. Mais parfois, ça t'évite d'avoir une tension sur le deal alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et tu laisses l'avocat ou ton cabinet M&A faire la première discussion. C'est des choses quand tu vends ta boîte, quand tu fais un exit, c'est dur déjà émotionnellement parlant. Ça prend du temps. T'as pas tous les exits qui vont au bout. Donc il faut faire également attention à son cash, à sa stratégie. Il faut qu'on, tu vois, comment tu communiques à ton équipe. C'est, on va pouvoir peut-être en parler après, mais ce type de sujet, c'est aussi super important. Mais voilà, moi, je conseille d'être bien accompagné, en tout cas. Et si tu as déjà le lead potentiel, négocie peut-être pour baisser un peu le pourcentage du cabinet.
Ok. Justement le fait de communiquer à ses équipes et notamment aux key people de la boîte, parce que quand tu te fais racheter, les gens rachètent pas uniquement la tech, ils rachètent aussi les humains derrière. C'est très vrai dans le service, mais je trouve que dans la tech, dans le produit, c'est tout aussi important. Comment est-ce que tu communiques justement à ton équipe et à quel moment, tu vois? Parce que si, admettons, tu as un départ du... je sais pas, d'un C-level au moment du process, ça peut aussi impacter les négos. Donc, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus.
Alors sur la communication, tu as une loi. Tu as une loi qui t'oblige à communiquer à l'intégralité de tes salariés, leur faire signer un document avant que le rachat prend effet. Cette loi, elle m'a beaucoup stressé parce que tu avertis l'intégralité de ton équipe pour leur dire « je vends ma boîte ». Voilà le projet. C'est difficile parce que si tu décides d'annoncer le nom de l'acquéreur potentiel ou pas, avoir la communication que tu as auprès de tes équipes, mais c'est pas facile parce que imagine ton rachat se fait pas. Donc tu leur as communiqué que tu allais être racheté avant que 100% du deal soit finalisé. Et donc tu peux démotiver tes équipes, et si le rachat se fait pas, ils vont pouvoir se poser beaucoup de questions, ils peuvent reprocher un manque de transparence. Bon, certains peuvent le comprendre également, comprendre que ça reste du business, mais la communication est super importante, et même pour l'acquéreur, parce que tes salariés, il faut les garder motivés. Il faut que tu puisses leur expliquer l'avenir, comment les projeter dans la société, qu'ils comprennent l'objectif, que potentiellement avec le rachat la société va se développer beaucoup plus rapidement. Et donc ça c'est vraiment des choses à prendre en compte. Donc pour les C-level, il faut être full transparent. Donc potentiellement ils sont aussi associés au capital, donc ils ont envie d'avoir un peu les chiffres, combien ils vont réussir à gagner avec les BSPCE, combien ils vont sortir d'argent, combien ils vont se projeter. potentiellement, je dis vraiment au hasard, mais un CRO, il arrivera potentiellement plus facilement à se projeter dans le groupe que un CFO, je dis vraiment au hasard, hein, ça dépend des postes, ça dépend comment c'est établi. Mais donc c'est les questions qui vont se poser, c'est comment eux ils vont se projeter, est-ce qu'il y a une place pour eux dans l'équipe acquéreur ou non, s'il y a une transition, combien de temps elle va durer. Donc voilà, il faut en tout cas avoir ces réponses à leurs questions pour qu'ils puissent se dire ok, ça a été anticipé, ça a été discuté. Ils font attention aussi à nous et pas seulement à la vente de leur boîte, mais ils ont pensé aussi à nous dans ce rachat-là. Mais c'est vrai que c'est un événement qui est dur. C'est pas facile la communication.
Ouais, carrément. Et j'imagine que peu importe, enfin quoi qu'il arrive, un événement de ce type-là, ça génère du stress côté équipe, que tu sois partie prenante du projet futur ou non, parce que soit tu potentiellement tu touches du cash, soit t'en touches pas, soit tu restes pas. Comment est-ce que tu fais pour peut-être tempérer le stress de tes équipes? Est-ce que t'as eu des actions particulières, tu vois, quand le process de vente a été amorcé?
Alors, quand le process de vente a été amorcé, j'ai pas communiqué. Et à la base, j'étais pas à vendre. Donc moi, j'étais en roadshow pour faire une série B. Ouais. J'avais des fonds hyper intéressés en plus pour rentrer au capital. Mais au même moment, j'étais contacté et donc ma levée de fonds s'est poursuivie en dual track. Le dual track, donc c'est on lève des fonds ou on vend la société. Mais initialement, j'étais que sur la levée de fonds. Donc ça s'est ouvert, j'ai averti mon board et les investisseurs quand on était dans ce type de process. Et une fois qu'on a eu la LOI, donc le term sheet qu'on a pu signer, où on s'est mis d'accord sur les quelques conditions, donc la valorisation, l'earn-out, les lever, good, bad, medium lever ou autre. Donc là, on a avancé dans le process de vente, mais on a averti les salariés qu'à la fin, à la toute fin. C'est-à-dire que pendant ces 7-8 mois, on n'a rien dit. Donc il y avait le CFO, mon cofondateur Sylvain et moi-même, et le reste des équipes n'étaient pas au courant, en tout cas des avancées. Donc voilà, on a vraiment fait en chambre fermée. Et au moment où on l'aura annoncé, par contre, ça, on l'avait bien travaillé. On a fait une bonne présentation de qui va être l'acquéreur, comment ils vont réussir à se projeter, qu'on gardait les salariés. Voilà les avantages qu'ils allaient avoir en passant dans le groupe, parce que le groupe avait certains avantages que nous, on n'avait pas. Donc voilà, on leur a expliqué la stratégie. On leur a dit également que si on avait levé des fonds entre 10 ou 20 millions d'euros, le fonds là qui nous a racheté était à 125, 145 millions à peu près de levée de fonds. Donc ils avaient beaucoup plus de moyens que nous pour exécuter cette stratégie et que ce serait mieux pour tout le monde. Et que pour eux, c'est une expérience aussi incroyable de vivre ce que c'est une acquisition, le choc de culture. Et donc, voilà, on a communiqué vraiment de dernière minute via la loi qui nous obligeait à le faire. Mais ça a été compris, perçu. Je pense qu'on avait beaucoup travaillé le sujet. C'est vrai que moi, ça m'avait fait stresser. C'était important que les salariés puissent comprendre aussi notre décision à nous. Mais ça a été bien pris. Okay. Après, certaines personnes, bien sûr, étaient moins contentes que d'autres, mais ils comprenaient en tout cas la décision.
Donc, de manière très concrète, t'as envoyé un mail à toute la boîte pour provoquer, je sais pas, un point ou peu importe, je sais pas comment est-ce que ça s'est passé de votre côté.
Ouais.
Et à ce moment-là, vous avez déroulé la présentation, répondu aux questions aussi, j'imagine. Donc, c'est comme ça. Exactement. Que ça s'est fait.
Ouais. Et surtout que bon, ils se doutaient que quelque chose se passait, mais ils savaient pas quoi. Ils savaient pas. Est-ce que c'est une levée de fonds et on rachète une boîte? Est-ce que on fusionne avec une autre boîte? Mais ils se doutaient pas en fait qu'on allait être racheté. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que on a fait deux annonces à une semaine d'intervalle parce que le fonds et Skippers nous ont racheté nous et Octoly, qui était notre plus gros concurrent à l'époque, en même temps. Et donc en fait, la première communication, c'est on se fait racheter. Et la deuxième, c'est, les gars, on fusionne avec Octoly.
Ouais, donc là, c'est double annonce, double stress pour exécuter.
Ouais, c'était intense, émotionnellement parlant, c'était intense, ouais. Ils s'y attendaient pas, personne s'y attendait à ça.
Carrément. Bah, on va parler justement de la fusion, je pense que ça sera le prochain sujet justement pour avoir un petit peu de cohérence, mais j'aimerais juste revenir sur un point, tu l'as bien souligné. Quand tu lances un process de ce type-là, surtout quand il n'était pas dans les cartons, tu as 50% de chance qu'il n'aille pas au bout. Et voilà. Sauf qu'entre-temps, toi, ça te consomme de la bande passante, ça te consomme de l'énergie, tu vas peut-être temporiser certaines décisions importantes et tu vas conditionner tes décisions à ce process-là. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te défocus à cette période et quel conseil tu auras donné?
Ouais. Premièrement parlant, ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ensuite, si t'es bien aidé par par ton cabinet M&A, par ton avocat, par ton cofondateur ou tes C-level, ça te permet aussi de prendre de la hauteur et de laisser gérer certaines tâches opérationnelles. Il faut garder la communication, donc c'est-à-dire que même si ça te prend du temps au quotidien, ce process de vente, il faut que tu prennes du temps pour communiquer. Donc nous, par exemple, on avait un pitch mensuel, et donc on gardait. Moi, je faisais un mail hebdo à mes équipes pour leur dire un peu comment pour qu'ils prennent la température de la boîte. Je restais dans les bureaux, j'étais quand même dans les bureaux et à disposition s'ils souhaitaient me parler, donc ou prendre un café, j'étais là. Donc j'étais présent. Donc je restais quand même présent s'ils avaient besoin et je le montrais sur Slack en disant bonjour les matins, n'hésitez pas si besoin. Donc voilà, il faut garder quand même cette proximité là avec les équipes pour qu'ils puissent sentir qu'on reste disponible si besoin. Je dis vraiment si besoin parce que malheureusement tu peux pas le faire avec tout le monde. Si t'as des cofondateurs, ben il faut bien dispatcher les tâches et laisser une autonomie à tes cofondateurs sur certaines missions et leur faire confiance. Donc ça c'est important. Ensuite, les C-level, nous, on avait la chance d'être une centaine de personnes dans la boîte, d'avoir déjà des C-level qui avaient de bons niveaux et qui travaillaient déjà en autonomie depuis X temps, parce que moi, j'aime pas le micromanagement, donc je mets des objectifs et je les laisse ensuite agir. Et donc ça me permettait aussi de me dégager du temps. Et après, j'avais mes meetings avec eux hebdo, avec les C-level, donc c'est un point hebdo avec eux, qui dure 30 minutes avec chacun. On avait des comités qu'on avait mis en place de pilotage. Et ensuite, j'avais mes reportings le vendredi qui me permettaient de bien piloter la boîte et de voir où on en était. Et grâce à cette communication-là, c'était beaucoup plus facile pour moi de gérer la boîte sans me prendre trop de temps d'un point de vue opérationnel. Parce que je suivais les chiffres. Et si ça allait pas, bien sûr, je me mettais dans un meeting. Mais j'évitais au maximum, en tout cas, de rentrer dans l'opérationnel.
Donc pour toi, tu gardais business as usual parce que tu avais bien structuré ta boîte. En tout cas, tu pouvais t'appuyer sur des personnes qui étaient déjà... bien implanté et qui pouvait transmettre et exécuter la roadmap. Mais après toi, à titre perso, est-ce que ça t'a consommé plus d'énergie, tu vois, d'avoir ce process à côté et comment tu l'as vécu ?
Ouais, ça m'a consommé énormément d'énergie. Tu vois, tu me disais 8-9 mois, ça va. Pour moi, c'était 3 ans. Donc... Non, c'est intense, c'est dur parce que mine de rien, à la base on voulait lever des fonds, donc tu burnes de l'argent, on n'était pas rentable, et donc finalement on avait un runway qui nous permettait de tenir X temps. Et la problématique que t'as, c'est que tu rentres dans un process de vente, mais ta boîte continue, tu ne réduis pas forcément tes coûts parce que ta boîte a besoin de continuer de se développer, d'être sexy pour que la personne qui t'achète, l'acquéreur, reste motivée sur ton deal. Et donc cette balance-là est pas forcément facile de dire bah si le deal se fait pas, bah finalement t'auras perdu 9 mois, t'auras moins de renouer. T'avais dit non aux investisseurs pour la levée de fonds. Donc si tu retournes les voir après, ils vont dire ok, à la base tu voulais vendre ta boîte, donc t'es peut-être un peu plus démotivé. Donc nous on est un plan de secours. Donc t'as ces questions-là aussi qui peuvent surgir. Mais j'étais exténué à la fin à la fin du process de vente. J'étais vraiment fatigué. Même si j'étais accompagné.
Ouais, donc au final, ça reste quand même un process, quoi qu'il arrive, hein, que l'on subit, même en étant entouré, parce que ça consomme beaucoup et les enjeux sont énormes, quoi, derrière.
Bah, c'est beaucoup plus difficile qu'une levée de fonds. En tout cas, sur mon expérience à moi. Après,
c'est quoi la différence peut-être pour toi, pour que les personnes prennent conscience de ça ?
Ben, déjà, ton document de vente, nous, on avait 160 pages en anglais dans un pack d'actionnaires. Donc, le SPS, c'est 160 pages, même un peu plus. Dans ton pack d'actionnaires, généralement, t'en as un peu moins. Donc, tu vas avoir peut-être une trentaine, quarantaine de pages. Pareil, ça dépend. Hein, je donne juste mon expérience à moi. Donc, c'est juridiquement parlant, c'est un peu plus facile. Ensuite, dans le process de vente, tu vas beaucoup plus loin dans la data room, dans les détails, dans les questions qu'ils vont te poser. Les questions aussi que tu vas devoir te poser que tu n'aurais pas sur la levée de fonds, c'est ton rôle à toi, ton futur, comment tu te projettes dans la boîte, qu'est-ce qu'ils vont faire de tes équipes, est-ce qu'ils les gardent, ils les gardent pas, est-ce qu'il y a un remaniement, est-ce qu'il y a des doublons, donc tu as beaucoup de sujets que tu n'aurais pas si tu étais sur un simple process de levée de fonds, où tu ne te poses pas forcément les mêmes questions. Ouais, ensuite, nous c'était un cas aussi spécifique parce que l'acquéreur achetait Octoly qui était notre concurrent. Et nous, en même temps, donc la question, c'est si un des deux deals se fait et pas l'autre, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est l'autre boîte ? Donc, tu dois te mettre en fait en position de force par rapport à l'autre boîte, mais pas trop, pour pas paraître arrogant. Mais de l'autre côté, il faut que tu te rendes un petit peu plus sexy. Mais tu montres qu'il y a quand même des synergies entre les deux s'ils veulent racheter les deux. Et donc, en fait, tu es vraiment sur un jeu d'équilibre. C'est une vraie balance et qui facilite pas la vie. Par contre, en termes d'expérience, c'est incroyable. C'est super intéressant, c'est enrichissant. Tu vois, a posteriori, je peux te dire, je suis heureux d'avoir vécu ça. Mais, mais dans le moment, j'avais hâte de passer à autre chose.
D'ailleurs, la suite, et je passe au prochain sujet qui est la fusion. C'est un sujet que tu as bien connu, du coup, dans le cadre du rachat d'Ivancy. Et puis derrière, la stratégie de build-up qui a été orchestrée par Skippers. La majorité du temps, la greffe, elle ne prend pas pour différentes raisons. Avant de te demander ce que tu as fait différemment et pourquoi ça a marché, justement, alors que vous avez fusionné avec aussi votre premier concurrent, c'est quoi un peu ton regard là-dessus? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas d'habitude?
Ouais. Alors, avant de te parler de ça, je vais te parler d'une autre expérience que j'ai eue. Parce que moi, j'ai racheté une boîte. Le nom de la boîte, c'est Lucet. Donc, c'est 250 000 consommatrices qui faisaient du beauté test et mettaient des avis sur des sites. Et cette boîte-là, quand je l'ai rachetée, il y avait 6 personnes plus une freelance qui était externalisée. Et j'ai racheté la boîte au tribunal, donc c'était en liquidation. Et donc aussi très bonne expérience parce que je gagne face à un beau groupe qui était beaucoup plus gros que nous. Donc tu pitches, t'es avec ton pupitre devant les juges en face de toi pour réussir à acheter la boîte. Process qui prend aussi du temps. Et donc moi, ce que j'avais vu dans ce process-là, j'ai rencontré les salariés. J'avais échangé avec, je m'étais assuré qu'il y a un fit. J'étais à disposition s'ils voulaient répondre, que je réponde à certaines questions. Et quand on a fait l'acquisition, je me suis rendu compte qu'en fait, la culture d'entreprise entre cette boîte-là, qui était beaucoup plus petite qu'Ivancy, et la nôtre, n'était pas la même. Et donc, il y a eu un problème de culture. Et donc, les salariés n'avaient pas envie de rester chez nous. Donc finalement, quasiment tout le monde est parti au bout d'X mois. Mais nous, ça nous a permis de racheter une techno, de racheter aussi un savoir-faire, de pouvoir réutiliser le concept. Et ça a été hyper bénéfique parce que on a vraiment, vraiment réussi à scale et à gagner des grands comptes grâce à la techno qu'on a rachetée et ce business. Mais dans l'opérationnel, on a senti qu'il y avait un monde entre les deux.
Comment tu t'en es aperçu?
Pas la même façon de travailler. L'intégration, même si on a tout fait pour qu'il y ait une bonne intégration, parce qu'on a vraiment travaillé, il y a eu des difficultés. Quand on leur demandait en fait comment ils se projetaient dans la boîte, mais ils avaient du mal à se projeter dans notre boîte à nous. Quand tu passes d'une boîte de 6-7 personnes à une boîte d'une centaine de personnes, t'as plus les mêmes process. Mmh. T'as pas forcément envie de te remettre dans ce type de process là. Ils avaient pas de manager, donc là t'as quand même quelques couches managériales. Et donc en fait tout change et tu te rends compte qu'ils ont du mal en fait à se projeter. Et donc il aurait fallu qu'on mette par exemple un timing, un temps donné, pour qu'on prenne la connaissance, qu'on gère le sujet et après qu'on facilite peut-être la sortie. Mais c'est des bons éléments. Hein. Mais c'était juste que la culture d'entreprise était différente. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est un, comment tu les projettes dans la boîte, que tu leur expliques bien aussi ce que tu fais, ce que tu as besoin, ce que tu attends d'eux, comment va être leur organisation de travail, qu'est-ce que tu vas leur mettre à disposition, c'est quoi les bénéfices que tu vas avoir dans ta boîte. Donc voilà, en tout cas, il y a tout un package. Et maintenant, si je te reparle de Skippers, Skippers, c'est un regroupement de 10 boîtes, si je compte Lucet que nous, on avait racheté. Mm-hmm. Donc, tu as 10 sociétés qui fusionnent en un peu plus de 2 ans sur différents continents. Et donc, tu te dis, déjà avec 2 boîtes, nous, il y avait une différence de culture. Donc, entre 10, t'en as beaucoup. Et là, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une bonne communication, il faut réussir à prendre les gens avec toi dans ton projet. Mais il y a 2 choses pour moi à retenir. La première des choses, c'est 1, la communication. 2, il faut une équipe opération. Il faut un COO avec une équipe opération qui va gérer l'intégralité des tools, qui va communiquer comment, comprendre comment les utiliser. Et ensuite, il faut une team communication qui mette en place les nouvelles valeurs, la nouvelle culture, la vision de l'équipe, un peu le triangle, hein. Vision, valeur, culture, pour justement créer une seule et même équipe au même moment. T'as des départs et ça, c'est normal. Donc, il faut pas avoir peur. T'as 35% de départs après une fusion. J'ai envie de te dire, c'est pas forcément inquiétant. En tout cas, sur 550 personnes, ça l'est pas. Après, c'est juste comment tu les remplaces. Est-ce que tu as déjà prévu les remplacements? Quand tu les laisses partir, comment tu t'assures que la connaissance elle reste en interne? Comment tu t'assures de garder les top éléments dans ta fusion des équipes? Donc, parce qu'il faut fidéliser tes top talents. C'est surtout ceux que tu veux pas qui partent. Et ça, il faut réussir à les identifier en amont et même demander potentiellement aux cofondateurs des boîtes que tu rachètes quels sont les top talents dans lesquels tu veux vraiment qu'ils restent, en tout cas à ce moment-là, pour les garder motivés et travailler le sujet avec eux.
Trop bien. Donc ça, c'est un peu les questions à se poser, justement pour essayer de faire en sorte que la greffe prenne entre les deux organisations. Si là, aujourd'hui, tu as un entrepreneur, une des boîtes dans lesquelles tu as investi, qui me dit, bah voilà, j'ai un projet de fusion et tout, c'est quoi un petit peu peut-être le playbook que tu pourrais lui donner on va dire step by step, tu vois, comment tu cadres toi ta réflexion?
Ouais, premièrement, la question que je lui poserais, c'est est-ce que tu veux racheter cette boîte-là pour du chiffre d'affaires? Est-ce que tu veux racheter ça pour la techno? Est-ce que pour les équipes? Est-ce que c'est des équipes dev, par exemple, qui pourraient t'aider sur ton sujet? Donc déjà, quelle est la première raison de ton rachat? Ensuite, ce que je lui dirais, c'est est-ce que dans ta feuille de route, qu'est-ce que tu as prévu? Donc comment t'as prévu de communiquer, comment t'as prévu de faire ton upsell, ton cross-sell, donc communiquer en interne et en externe, hein, parce que c'est aussi bien auprès de tes équipes qu'auprès des clients existants que tu peux déjà avoir. Ensuite, ce que je vais lui dire, c'est les coûts que tu vas avoir, comment tu vas merge tes coûts, donc qu'ils réfléchissent déjà à l'ensemble des logiciels, à ce qu'ils veulent mettre en place d'un point de vue opération. Et après, il faut voir en détail, parce que je pense que sur chaque mesh, c'est un peu différent. Mais voilà, c'est un peu des questions que je lui poserai, en tout cas.
Donc, sur le business SaaS, il y a la partie tech. Donc, comment est-ce qu'on arrive à merger les deux technologies? Il y a la partie ops avec, justement, les logiciels et tous les process aussi des deux boîtes. Et après, il y a la partie, comme tu l'as dit, people. Comment est-ce que tu arrives à fusionner les deux organigrammes et faire en sorte que tout ça prenne? Tu as parlé d'une équipe, d'un CEO, d'une équipe qui s'occupe de l'intégration. J'avais enregistré avec Hublot qui nous disait que de part et d'autre, ils avaient dénommé un responsable, donc dans les deux structures, des responsables post-merger integration. Donc, est-ce que ça a été le cas pour vous? Comment est-ce que vous y êtes pris là-dessus? C'est quoi tes conseils?
Non, c'était pas le cas. Il n'y avait pas d'équipe opération. Il y avait des équipes qui travaillaient sur les tools, mais pas sur l'intégration des boîtes. Et donc, c'est vrai que c'était pas forcément facile pour le groupe. Par contre, sur ta question de généralement, ça fonctionne pas, c'est très difficile. Skippers, pour l'instant, c'est un succès. Ils ont vraiment réussi à croître le chiffre d'affaires en un an et demi. C'est assez incroyable ce qu'ils ont mis en place. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas de pôle opération. Et c'est quelque chose que moi j'avais poussé, mais que j'aurais bien voulu mettre en place. De ce que tu m'as dit de Hublot, je trouve ça génial. Si t'as deux personnes en charge de différentes boîtes pour travailler ensemble, voir les points communs, ce qui serait encore mieux, c'est de le travailler avant même que les boîtes soient intégrées. Parce qu'en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que t'intègres les boîtes et tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors que ça se fait en amont, tu vois, le plan, même ton organigramme, il faut que tu commences à réfléchir à ton organigramme avant même que tu sois merde et que tu te poses pas la question une fois que les deux boîtes sont là. Ok, bon, on vous a pas communiqué, on vous revient vers vous dans 3 mois. Tu as créé du stress, de la frustration, personne n'arrive à se projeter dans ton nouveau projet. Voilà, tout ça, il faut créer en amont et en fait, tu essaies de le mettre en place après assez rapidement. Mais j'aime bien ce que tu m'as dit par rapport à Hublot, je trouve ça bien. Je l'avais jamais entendu, hein, deux people séparés de différentes boîtes.
L'épisode était vraiment chouette parce que je le mettrai en description si le sujet de la fusion vous intéresse, parce qu'en plus de ça, lui aussi, c'était avec son plus grand concurrent. Donc, c'est assez drôle les parallèles qu'on peut faire. Mais ouais, ils avaient fait pas mal de meetings déjà entre founders avant même d'acter une fusion, déjà pour savoir si les intérêts étaient alignés, si la culture était similaire, et surtout pour être sûr que ça allait être profitable à tous. Et ensuite, ils avaient fait pas mal de workshops, justement, à l'issue de la fusion, pour impliquer les équipes sur quelle va être la nouvelle brand, comment est-ce qu'on va merger cette roadmap produit, etc. etc. Et donc, c'était assez intéressant de voir le côté collaboratif qu'ils avaient mis en place justement pour faire de cette fusion une réussite.
Ah, donc, c'est super. C'est sur ton podcast, tu l'as ?
Ouais.
Ah, bah, incroyable, je vais l'écouter celui-là. Ouais, c'est super.
Écoute, je te propose d'enchaîner sur un sujet qui pareil, qui gravite autour. En fait, tous les sujets gravitent autour. C'est le sujet de l'organigramme d'une startup. Et j'ai l'impression que c'est un peu le... Je sais pas si c'est le cauchemar des founders qui scalent. En tout cas, c'est un peu leur obsession. Parce que ils sont obligés d'avoir un coup d'avance à chaque fois. C'est quoi les erreurs classiques que l'on peut commettre sur l'organigramme par rapport à ce que toi, tu as pu expérimenter, mais aussi voir chez d'autres boîtes?
Premièrement, en fait, tu te rends compte quand tu travailles sur ton organigramme et que tu le demandes à d'autres personnes, les gens n'aiment pas partager leur organigramme. C'est assez stratégique. Donc, la première difficulté, c'est comment tu arrives à te projeter en réussissant à avoir l'organigramme d'autres boîtes qui ont un coup d'avance sur toi pour voir comment toi tu peux anticiper des choses. Et donc t'arrives pas à l'avoir, cet organigramme là c'est très compliqué. Il y en a un sur le blog de Thibaut
qui est Tribes.
Tribes. Donc où j'avais participé, on parlait de l'organigramme, mais c'est vrai que c'est un élément qui est un facteur clé de succès d'une boîte, mais qui est très compliqué. Chez Ivancy, à 25 salariés, on avait un organigramme. À 50, on avait un autre. À 75, on avait un autre. À 100, on avait un autre. Et chez Skippers, à 500, tu avais un nouvel organigramme qui était fait. Et en fait, là où il faut que tu réussisses à te projeter, c'est quelle typologie de personnes tu as besoin, comment tu vas faire évoluer tes pôles. Ensuite, c'est qui va prendre, par exemple, la tête de ce nouveau pôle-là, qui tu vas faire monter. Est-ce que tu recrutes en interne ou en externe, qui t'arrive projeter, combien ce pôle-là va te coûter versus le chiffre que tu vas réussir à faire ou versus le cash que tu as. Il faut que tu te poses les questions aussi en interne. Alors, si c'est une fusion à deux personnes équivalentes, laquelle tu souhaites garder, comment tu prends cette décision-là, parce que quand tu fusionnes 550 salariés, t'as des doublons. Donc, qui tu vas décider de faire monter et pour quelles raisons? Donc, est-ce que tu fais des entretiens, tu vas échanger avec, combien de temps tu leur laisses à travailler dans l'opérationnel, quels sont tes choix? Donc, tu fais une scorecard, des critères. Donc, ça va être important aussi. Mais je sais que moi, j'avais eu beaucoup de difficultés. Et pour donner un exemple, c'est est-ce que les PMM, je les mettais dans le produit ou je mettais dans le marketing? Est-ce que la data, je mettais sous la tech ou je mettais sous le produit ou je faisais un pôle à part? Donc, c'est typiquement le type de questions qu'on peut se poser et qui ont un vrai impact en fait sur la santé de la boîte, parce que admettons que je dis vraiment au hasard, mais admettons que je décide de mettre PMM en dessous du marketing et finalement que c'est mal managé parce que la responsable elle n'a pas cette connaissance là, donc on va perdre du temps, ça va créer de la frustration, la personne elle peut partir parce qu'elles sont pas à l'aise là où elle est versus son manager, et le manager voulait avoir cette personne là par ego, mais finalement ça match pas. Et donc c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler et voir si dans le temps ça reste similaire ou si ça évolue. Donc tu peux très bien te dire OK, on est 20, la data c'est sous la tech, mais quand on sera 200, en fait tu auras un pôle data indépendamment de la tech parce que ta boîte elle a évolué et les choses sont différentes et que tu as besoin d'autres profils pour pouvoir gérer en tout cas ce pôle. Voilà, je donne vraiment des exemples au hasard, mais c'est un sujet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. T'as des plateformes qui te permettent de faire des bons organigrammes et de réussir à te projeter. Et je trouve que même si t'as pas cette problématique, c'est toujours intéressant de le faire pour essayer d'avoir ton coup d'avance. Et moi, je me rappelle ce que je faisais. Je faisais l'organigramme actuel et je faisais mon organigramme cible à 6 mois pour réussir à me projeter. Et après, j'analysais de ce que j'avais projeté versus ce que j'ai fait, où j'en suis. Et j'allais voir, je prenais mon organigramme et j'avais un coach où je lui montrais mon organigramme et je lui disais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est les bons choix? Et qu'est-ce que tu vois, toi, dans des autres boîtes? Et parfois, je discutais avec des CEO de boîtes pour savoir justement est-ce que le PMM, je mets sous le market et le produit. Mmh. Et parfois, on peut pas te donner la réponse parce que c'est propre à ton entreprise, à toi. Mmh. Et donc, ça te frustre parce que tu te dis, ouais, mais moi, je sais pas forcément. Et t'as peur de prendre des mauvaises décisions. Mais la pire des choses, c'est de pas prendre de décision. Donc autant la prendre, même si elle est mauvaise, tu changes après assez rapidement. Mais ouais, l'organigramme est vraiment stratégique pour projeter tes people, te projeter toi-même, anticiper des mécontentements aussi d'un point de vue managérial et réussir à scale ta boîte.
C'est hyper intéressant ce que t'as dit, notamment sur les sujets de. De département, tu vois, sous la coupe de tel ou tel direction métier. C'est pas évident, en fait, j'imagine, de se projeter entre le temps court et le temps long. Le temps court, c'est aujourd'hui, la boîte, elle a besoin de cette organisation, et le temps long, bah, il faut quand même que je pense à la suite parce que je vais devoir recruter, parce qu'il va falloir un manager et tout. Comment tu fais les arbitrages de ton côté? C'est comme tu l'as dit, tu benchmarks auprès d'autres fondateurs, tu as des convictions dessus sur certains types d'organisations à tel stade. Enfin voilà, je suis curieux d'avoir ton ressenti là-dessus.
Pour prendre la décision?
Ouais.
De qui tu mets à quelle place?
Ouais, et puis ouais. Tu vois, ce côté arbitrage, temps court, temps long, parce que tu me disais que tu fais deux organigrammes en même temps au final, un court terme et un cible. Donc voilà, je suis curieux d'avoir ta méthodo et comment t'approches la chose.
Ouais, alors sur la méthodo, j'ai essayé de discuter avec des boîtes qui avaient un peu plus d'avance que moi pour voir comment ils s'étaient organisés. Je faisais de la veille sur LinkedIn. Donc je regardais sur LinkedIn un peu sur des boîtes qui avaient un coup d'avance sur nous, série A ou série B. Je regardais un peu comment ils s'étaient organisés, combien de commerciaux ils avaient. Et donc je dessinais leur organigramme à travers LinkedIn de ce que je pouvais voir, et ça me permettait d'essayer de comprendre pourquoi ils avaient pris ces décisions là si on est sur un business en tout cas qui est similaire, et si c'était une boîte américaine qui avait plus que moi, pourquoi ils s'étaient organisés de cette façon là ensuite j'ai discuté avec des amis à moi pour voir ce qu'ils ont pensé ou comment eux ils étaient organisés et comment ils pensaient s'organiser dans un développement futur. J'avais mon coach donc que je voyais toutes les deux semaines, donc c'était une demi-journée, et je pouvais lui parler de tous mes sujets. Et donc comme lui, il avait été déjà gérant de très très belles boîtes et qu'il était board member aussi de beaucoup d'entreprises, bah il avait une visibilité qui était assez 360, et donc ça me permettait de récolter des feedbacks et d'avoir un sparring partner avec qui je pouvais discuter et me sentir à l'aise en fait de lui dire vraiment les inquiétudes ou les risques ou autres. C'est pas forcément toujours facile parce que pareil, quand ta boîte elle grossit, il y a le rôle de tes cofondateurs. Comment tu les fais évoluer aussi dans ton organigramme. Si je te parle de Sylvain qui était mon cofondateur, au début Sylvain gérait la partie RH, finance et CSM. La boîte elle a grossi, on a recruté un CFO, une RH. Et donc Sylvain, il est passé après sur le métier d'ops, il est passé sur le produit. Et donc en fait, il faut que tu le fasses en fonction de ses qualités, en fonction de ses envies, et que tu continues de l'impliquer dans le projet. Donc tu as ces questions aussi au niveau des cofondateurs. Et donc ce type de questions, parfois tu as un peu peur de prendre des décisions, et donc tu as envie de te sentir un peu plus serein d'en discuter avec quelqu'un, et le coach peut t'aider en tout cas à réfléchir, ou des DRH peuvent t'aider à réfléchir. Donc voilà, je benchais comme ça. Il y a des articles, mais on a parlé de Tribe juste avant, où on voit il y a 4 ou 5, je crois, organigrammes de différentes boîtes qui permet aussi de se projeter. Et en plus, il y a un argumentaire derrière pour comprendre pourquoi ces décisions, la complexité de le mettre en place. Voilà, c'est principalement ce que je faisais. Et pour prendre mes décisions, tu vas demander, alors admettons qu'on fusionne deux boîtes de 50 salariés, les deux boîtes, avec deux personnes au même poste. Et ben, ce que tu fais, c'est que tu demandes au CEO de l'autre boîte, qu'est-ce que tu en penses de cette personne-là? Est-ce qu'elle a été performante? Est-ce que tu souhaitais la garder? Est-ce que tu souhaitais faire une promotion? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des lacunes pour gérer pas 50 personnes, mais 100 personnes? Et donc, déjà, le CEO qui connaît cette personne-là va pouvoir te faire des feedbacks. Dans un temps 2, après, il faut pas que tu restes que là-dessus, parce que c'est à toi aussi d'aller chercher l'information. Donc tu vas faire quelques meetings stratégiques où tu peux demander à la personne de travailler une strat sur un sujet donné pour voir un peu ce qu'elle va te sortir. Tu peux impliquer cette personne-là dans des meetings avec ton responsable à toi pour voir comment ils interagissent, qui a les meilleures idées, qui connaît le mieux l'opérationnel. Et donc potentiellement, tu peux soit mettre une personne au-dessus de l'autre, soit tu te rends compte que les deux, ils n'ont pas forcément le niveau et tu as besoin d'une personne externe pour venir, ce qui peut aussi arriver. Donc voilà, tu vas faire des réunions communes, tu peux donner un plan stratégique à mettre en place, tu vas demander au CEO ou au responsable de l'autre boîte pour récolter ses feedbacks, et ensuite avec ça tu vas essayer de prendre une décision au bout de quelques mois quoi.
Hyper précieux comme retour, j'adore, et puis je mettrai évidemment les articles de Tribes en description, et d'ailleurs même sur je crois que Thibaut en avait fait un aussi sur la justement l'intégration d'une startup qu'ils avaient rachetée. Donc ça viendra en complément de ce que tu as dit, et c'est super. Et peut-être juste sur la partie organigramme, tout ce qui est organe de gouvernance et tout, c'est quoi un peu tes convictions dessus, à quel moment il faut les intégrer, lesquels, voilà.
Alors sur la gouvernance, alors je vais te dire comment nous on était structuré. On avait un board. Dans le board, il y avait il y avait trois acteurs, mais deux, quatre, six personnes. Donc six personnes, mais trois acteurs, donc deux sièges par boîte. Par contre, ils avaient juste un droit de vote et pas deux par personne, donc il y avait trois droits de vote. Et ensuite, il y avait mon cofondateur Sylvain et moi-même. Mais moi, j'avais vote compte double et voix prépondérante. Donc finalement, on avait la majorité de ce point de vue-là. Ensuite, on avait donc il y avait seulement Sylvain et moi, mon cofondateur, qui prenaient les décisions par rapport à notre boîte à nous. Et après, en dessous, on avait donc un comité de direction qu'on appelait CODIR. Et dans le comité de direction, on avait nos six levels. Donc ça a évolué, on est passé de 13 à 8 à 5 personnes et donc on prenait les décisions stratégiques au niveau des OKR. Donc moi je m'occupais de mettre les OKR de la boîte et ensuite je demandais à chacun des managers de créer ses propres OKR pour réussir à diriger la boîte. Et en dessous du comité de direction, on avait des sous-comités, un comité produit, un comité revenu, un comité international, un comité RH et finance. Et donc, avec ça, ça nous permet d'avoir un bon pilotage.
Trop bien. Et c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant l'épisode. C'est des sujets aussi que j'ai abordés avec Nicolas de Swan. C'était sur Start to Scale. Mais on a aussi parlé de ça hier, tu vois, en enregistrant ensemble. Donc, pareil. Tu sais très bien que son épisode va suivre après le tien. Donc c'est marrant. Ok, sur le sujet de l'organigramme, je crois qu'on a balayé tout ce qu'on avait prévu d'aborder. Sur, on va dire, cette dernière partie, sur tout ce qui est culture, vision. Sur la culture, pour moi, c'est au fil des échanges, c'est ce qui permet de grossir sans exploser en plein vol, tu vois. C'est, ouais, c'est un peu l'instrument qui va donner là quand t'es pas là. Donc, quand tu discutes avec d'autres founders dessus, c'est quoi les... Je suis curieux d'avoir les réflexions. Qu'est-ce que vous dites sur le sujet de la culture? C'est quoi là où il y a le plus peut-être d'interrogations, d'angoisses? J'aimerais bien avoir tes insights là-dessus.
Je peux peut-être te dire comment moi j'ai construit ma culture et pourquoi ça a été important. Je te parle plutôt à l'époque d'Ivancy et après je vais pouvoir rebondir sur Zelic. Mais à l'époque d'Ivancy, les 2-3 premières années, nous, on n'avait jamais eu de vraie expérience. On avait été alternants moi, j'avais déjà monté des boîtes, mais j'avais pas connu les startups, les scale-up, les grands groupes. Et donc, je ne savais pas ce que c'était une culture d'entreprise. Et une des problématiques qu'on a connues, c'est quand on était à 2-3 ans d'existence, la problématique, c'était de se dire, OK, ben, la boîte, elle grossit, mais les gens ne sont pas partie prenante au projet. Ils se sentent pas être des Ivancy. et donc on a dû travailler ce sujet-là et on avait fait intervenir en fait une boîte qui s'appelle Fly the Nest à l'époque. Je sais pas si tu connais.
Non.
Fly the Nest, bon, en fait c'est une boîte qui t'aide à travailler vision, culture, valeur, vraiment ton triangle d'or et qui vont te faire des feedbacks sur comment le mettre en place. Et donc, on les avait fait intervenir, c'était une journée, c'était gratuit à l'époque. Et donc, ils posent la question, mais quelles sont les valeurs, quelle est la culture et quelle est la vision d'Ivancy? Et là, ils nous disent, Sylvain, Dorian, vous n'avez pas le droit de parler. Donc, on écoute les personnes de la boîte. Il y avait CDI, stagiaires, alternants, un peu de tout. On était une vingtaine. Et là, on se rend compte, en fait, que personne dit la même chose. Personne dit la même chose. Et là, on se dit, en fait... je sais pas si tu m'entends bien.
Oui, je t'entends bien.
Ouais, tu m'entends bien. Ok. Et donc là, on se dit, il y a une vraie problématique. Il faut qu'on commence à communiquer. À communiquer. Et ils ont raison. Je me rappelle, il y a une personne qui était stagiaire bras droit à l'époque, et elle dit, mais en fait, les sujets là, la boîte s'en fout, elle les a jamais travaillés, quoi. Et là, moi, je suis à côté, je me dis, bon, en soi, elle a pas tort, mais je me rendais pas compte à quel point c'est important. Et en fait, juste après ça, on a décidé de travailler le sujet. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est Sylvain et moi-même, on a défini nos valeurs. Alors, on avait écrit qu'est-ce que ces valeurs représentaient pour nous. Et ensuite, on s'était dit, OK, bon, maintenant, on va les communiquer à l'équipe et on va voir dans nos valeurs à nous lesquelles valeurs ils se sentent aussi inclus dedans et qu'est-ce qu'ils pensent qu'on doit garder. Parce que, en fait, les valeurs, c'est pas que les cofondateurs. Vu qu'on était déjà une équipe, c'est qu'est-ce que eux ressentent aussi et qu'est-ce qu'ils ont envie de voir à travers l'équipe. Donc, on a voté ces valeurs-là, on les a sélectionnées, et ensuite, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les communiquer dans la newsletter, de les mettre en avant, et sur chaque action qu'on mettait en place dans la boîte, on s'assurait que les valeurs ressortent. Donc, par exemple, on avait une valeur qui était employee first, et pendant le Covid, c'était compliqué, cash is king, il faut pas dépenser de l'argent, et en fait, on avait mis les tickets resto en place, et en fait, les gens avaient été super contents, et donc, on leur avait dit, regardez, on nous dit faites attention à l'argent, on ne sait pas ce que sera le futur, mais nous, on décide de dépenser plus pour que vous soyez contents, et donc, ça va avec notre valeur employee first. Et donc, ensuite, la communication est devenue essentielle dans la mise en place de nos valeurs pour que les gens se disent, OK, c'est pas des valeurs bullshit écrites sur des murs, c'est dès qu'ils prennent des actions, ils communiquent sur ces valeurs-là et on va pas à l'encontre de ces valeurs. Et après, dans tous les recrutements qu'on faisait, donc nous, on communiquait les valeurs. Si ça fitait, on pouvait aller plus loin. Si ça fitait pas, on arrêtait directement. Et ensuite, on présentait nos équipes, donc pas toute la boîte, mais les quelques membres de l'équipe pour être sûr qu'ils fitent avec ces valeurs-là et avec ce noyau solide à la fin qu'on avait réussi à créer. Parce que c'est vrai que tu vas créer un noyau de 30 personnes hyper solides qui vont être proches de toi. Mais le plus difficile après, c'est comment tu fais vivre ces valeurs à travers les autres personnes en dehors de ce noyau-là, de ce premier noyau. Et donc, si eux-mêmes n'ont pas de valeur, s'il n'y a pas encore de culture, c'est très compliqué en fait de le garder et de réussir à l'étendre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de créer nos valeurs et les mettre en place. Et à la fin, tu te rends compte qu'on a créé une famille, on a créé des couples, on a créé des amitiés, on a des gens encore en relation. J'ai repris des gens chez Elite qui étaient chez Ivancy à l'époque parce qu'on a réussi à créer ce lien solide via une définition de façon de travailler. Et donc, dans ta culture, tu as tes valeurs, tu as ta vision, mais tu as également, c'est quoi notre façon de travailler? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui prime? Est-ce que on a les mêmes ambitions? Est-ce qu'on veut aller dans le même sens? C'est tous ces sujets-là qu'il faut englober et pour moi qui est le facteur clé de succès d'une boîte. C'est juste ça. Parce que la stratégie, tu peux toujours la pivoter. Un pricing, tu peux le copier. Une levée de fonds, il y a plein de boîtes qui font des levées de fonds. Par contre, ton humain, ton groupe, ton noyau, tu l'as juste dans ta boîte et pas dans d'autres boîtes. Et donc, si tu as réussi à créer ce noyau solide-là, tu es sûr que tu vas réussir à prendre les bonnes décisions et à grossir. Pour moi, c'est le premier facteur clé de succès.
Ah, mais je te rejoins là-dessus. Mais justement, est-ce que avec le scale, comme d'autres fondateurs, tu as été confronté à des phénomènes de microculture, tu vois, entre les métiers et justement, si c'est le cas, comment tu l'as géré de ton côté?
Alors, je t'ai pas entendu. Redis-moi.
Tu m'entends?
Ouais, là, c'est bon.
Ok. Je te demandais, quand j'ai discuté avec des founders, t'en as pas mal qui m'ont parlé de phénomènes de microculture au sein des directions métiers et à mesure que la boîte grossit, tout simplement. Est-ce que toi, t'as été confronté à ça et si oui, comment tu l'as géré?
Ça peut arriver, je l'ai senti dans certains pôles. Après, pour le gérer, c'est très difficile, mais il faut que tu discutes avec tes C-level. Parce qu'en fait, si tu sens qu'il y a une microculture au sein de certains pôles, ça veut dire que tes C-levels ne sont pas alignés, ça veut dire que ta communication que tu as dans ton comité de pilotage, elle n'est pas forcément bonne, ou que tu as une de ces personnes-là que tu dois réussir à t'en séparer. Quoi. Et donc, tu dois réussir à voir pourquoi il y a cette différence de culture. Si c'est que dans un pôle et que ça ne fit pas avec le reste de la boîte, tu vas devoir prendre une décision qui va être assez difficile de potentiellement te séparer de X ou Y personnes. Mais c'est vrai que c'est touchy, c'est pas évident, mais ça arrive souvent.
Ouais, c'est pas évident parce que comme tu l'as dit, il y a forcément déjà un peu de pédagogie à faire et potentiellement de la casse derrière avec des ajustements à faire dans tes équipes. Sur le sujet donc toujours de la culture avant de passer à la vision. C'est quoi un petit peu pour toi les erreurs que tu as pu voir là-dessus, que tu as pu commettre, ou alors pareil, les difficultés que d'autres entrepreneurs t'ont confiées?
Ouais, alors dans les erreurs, c'est le fait de ne pas avoir mis cette culture et ces valeurs-là en place tout de suite chez Ivancy. Et la première chose que j'ai faite chez Elix, c'est ça. On s'est réunis avec les cofondateurs et on s'est dit, là, on va définir nos valeurs à nous. Parce que si nous-mêmes, déjà tous les trois, on les incarne pas, on va pas réussir à les faire incarner aux autres personnes de la boîte. C'est ce qu'on a mis en place. Après, dans les autres questions que t'avais, c'était
Ouais. Donc, c'est quoi les difficultés que te confient les entrepreneurs là-dessus ou les erreurs que tu as pu voir de ton côté sur le sujet?
C'est vrai que j'en parle pas souvent avec d'autres entrepreneurs à propos de valeur et culture, mais je peux te dire chez Skippers, bah, quand tu fusionnes, t'as 550 personnes, bah, tu vas te rendre compte que il y a peut-être, tu le vois dans les bureaux, en fait, tu le vois directement dans les bureaux où au début, t'arrives, les gens, ils ont peur de parler à X ou Y personnes. Tu vas pas forcément t'asseoir à côté de gens que tu connais pas et donc tu vas te mettre que avec les personnes que tu connais. Donc pareil, ça veut dire que ça va mettre un peu plus de temps à réussir à créer cette synergie de départ. Donc la question que tu peux te poser, alors je dérive un petit peu, mais ça répond aussi indirectement. Mais c'est ok si je split les personnes, est-ce que finalement ok, elles vont parler avec d'autres personnes, mais est-ce qu'elles vont pas mal se sentir si tu les mets ensemble, mais est-ce qu'elles vont se mélanger? Et en tout cas, c'est ce que nous, on a pu vivre et on s'est rendu compte que même 6 mois après, ben, il y a certaines boîtes, par exemple, qui se mélangeaient un peu moins que d'autres. Quant à ta politique de remote qui est acceptée, si elle était différente dans certaines boîtes, le temps que tu mettes vraiment un process au clair, tu as certaines personnes qui vont moins venir au bureau alors que d'autres sont constamment au bureau. Donc, tu sais que ça va créer plus de liens sur cette équipe-là versus une autre équipe qui viendrait pas. Et donc, potentiellement, ta synergie dans l'équipe sales, elle va être beaucoup plus fluide et facile que dans une équipe, je dis vraiment au hasard, CSM. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Mais c'est vrai que je discute pas souvent avec d'autres CEO de culture, de leur culture d'entreprise.
Peut-être parce que ils osent pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, on avait abordé le sujet dans Start to Scale avec Caroline Payou de Ignition Programme. C'était assez cool. Donc, pareil, si vous voulez creuser le sujet, je me le note. Je vous le mettrai en descriptif de l'épisode. J'aimerais bien transitionner sur le sujet de la vision. Pareil, tout est interconnecté. Je te disais que la culture, pour moi, c'est ce qui permet de grossir sans exploser en plein vol. Et pour moi, la partie vision, c'est un peu la boussole. C'est quand tout va bien, quand tout va mal, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas dans ton produit, dans ton marketing. Quel est ton avis là-dessus? Comment est-ce que tu la formalises?
Ouais, j'ai eu du mal à la formaliser chez Ivancy. Elle a changé aussi et je pense que c'est normal. Et ce que j'avais fait quand j'étais sûr de moi, je l'ai marketé, c'est-à-dire que j'ai fait un article de blog sur Medium et j'ai écrit Ivancy en 2030. Et donc, on était en 2020. Et donc, voilà ce qui va se passer à 10 ans. Voilà ce que j'aimerais voir dans notre produit. Voilà comment le marché va évoluer. Voilà la phrase d'accroche qui va nous driver au quotidien. Et donc, j'ai travaillé cet article-là qui m'a pris à peu près un mois. Déjà, pour moi, poser des mots sur ma vision. Ensuite, de l'expliquer à l'interne et à l'externe. Et je pense qu'il était hyper intéressant là-dedans. C'est une fois que j'ai publié mon article, je l'ai marketé, j'ai dit à mon équipe marketing, là vous le communiquez en interne, on va le mettre dans la newsletter. Ensuite, j'ai fait un pitch en interne pour leur expliquer aussi pourquoi cet article-là, pourquoi c'était important. Et donc, ça permet aux gens de ton équipe de comprendre pourquoi ils s'impliquent au quotidien et vers quoi tu te diriges. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais refaire prochainement dans Zelic, c'est de leur donner une feuille de route et leur dire, ok, aujourd'hui, on sait ce qu'on fait, on a une roadmap pour 2 ans, mais ma vision, c'est celle-là, d'ici 10 ans. Et je pense que quand tu as une vision qui est claire, qui donne envie, et tu sais pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu as envie de révolutionner le monde. Tu avais une boîte juste en dessous d'où on était chez Ivancy, on était à Hôtel de Ville, on avait des top bureaux et tout, et juste en dessous, tu avais une boîte qui développait des exosquelettes. Et en fait, il y avait une phrase d'accroche qui était incroyable. Et quand tu t'arrivais le matin, tu lisais cette phrase d'accroche-là juste en dessous du logo, sur l'ascenseur, à côté de l'ascenseur, tu te disais, mais... ouais, j'ai envie de me lever pour cette boîte et aller bosser. Et je pense que c'est quelque chose qui va driver ton équipe au quotidien, d'avoir une vision claire. Et en plus, même toi, ça te permet de faire les meilleurs choix stratégiques en leur donnant une feuille de route, en leur disant, voilà les différentes étapes pour arriver à cette vision-là, parce qu'on n'y arrivera pas demain. Ça va prendre X années, mais on sait pourquoi on se lève le matin et vers quoi on se dirige.
C'est ça pour toi une bonne vision du coup? C'est le fait d'avoir un peu ce mission statement qui te dit pourquoi tu te lèves chaque matin et pourquoi tu t'adresses à tel client pour leur résoudre leurs problèmes?
Ouais.
Et trop bien. Et sur la formalisation du coup, c'est un document que tu écris et que derrière tu diffuses sur la partie onboarding, lors, j'en sais rien, d'event plutôt marketing, comment est-ce que tu diffuses?
Alors, l'article Medium, newsletter, pitch mensuel pour l'expliquer à toute la boîte. Ensuite, tu vas le mettre dans ton kit onboarding. Uh-huh. Quand les personnes arrivent, bah, ils peuvent lire cet article-là. Et après, quand tu vas faire un off-site, tu vas le rappeler parce que c'est quelque chose aussi qui se rappelle à chaque fois. Mm-hmm. Comme tu peux avoir des nouveaux arrivants si ta boîte elle se développe ou si tu as eu un peu de turnover ou autre. Donc, il faut le communiquer tous les 3 mois à peu près. Tous les 3 mois, tu réexpliques c'est quoi ta vision, vers quoi tu veux te diriger, pourquoi on est là et pourquoi aussi on doit tous s'impliquer dans ce projet-là. Tu vois, moi aujourd'hui chez Zelic, je veux révolutionner la sales tech. Je leur ai donné une feuille de route sur 24 mois. Je leur ai dit voilà les features que je souhaite. Voilà pourquoi on peut gagner le marché. Voilà les objectifs qu'on a. Et là, il faut que je finalise mon document, justement, mon article pour leur dire, ben, ma vision à 10 ans, c'est celle-là. Mmh. C'est de révolutionner le monde du CRM par telle et telle façon de le faire. Et au moins, on comprendra ben, où, vers quoi on se dirige. Mmh.
T'avais, je sais pas, est-ce que t'avais lu, le médium d'Andy Raskin, justement, sur la narrative, stratégique narrative? Il est super intéressant et j'en avais parlé justement avec Pierre de Clap, Pierre Touzeau. Et en fait, il y a aussi la partie dans cette vision, on va dire, changement de paradigme et voilà un peu comment quelque part fonctionnait l'ancien monde, comment est-ce qu'on le voit fonctionner dans 10, 15 ans, 20 ans. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as intégrées de ton côté, oui ou non?
Ouais.
Ok, ça marche. Je le mettrai de façon dans... Pareil, c'était un super article. Je le partagerai. Je crois que c'était vraiment l'article référence.
Je ne l'ai pas lu, ouais, donc très chaud. Ouais.
Je me note ça. Sur la vision qui n'est pas forcément claire au début, quand tu commences, enfin... Pour toi, est-ce qu'il faut forcément une vision très très claire au début pour entreprendre ou est-ce que c'est des choses qui peuvent se cristalliser avec justement l'expérience terrain, les retours clients?
Non, c'est compliqué de l'avoir au début parce que tu découvres aussi ton marché. Tu découvres ton marché peut évoluer, ta vision peut évoluer également. Donc pour avoir une bonne vision, il faut que tu comprennes bien ton marché. Il te faut aussi discuter avec tes users, avec des prospects, avec des clients, avec ton équipe qui peuvent t'aider aussi à trouver ta vision, parce que parfois seul, ben mine de rien, ça reste difficile. Ensuite, ça va dépendre de tes choix stratégiques où ça peut évoluer. Donc, admettons que t'es sur le métier de sales, voilà, tu peux te dire ok, je rajoute des briques marketing ou du CSM, et donc ta vision juste par ces deux parties-là peut évoluer totalement. C'est est-ce que tu as une boîte comme Planat, je sais pas si tu connais, qui fait du CSM, ou tu as HubSpot qui est parti du marketing vers du sales et puis du CSM. Donc tu peux te poser ces questions-là qui peuvent faire évoluer ta vision en fonction de comment ta boîte elle se développe, en fonction des fonds que tu as, où tu peux être potentiellement encore plus ambitieux. Donc pour moi, ta vision elle peut se créer avec le temps, grâce à des interactions et grâce à la compréhension de ton sujet. Et plus tu deviens expert, beaucoup plus c'est facile de réussir à te projeter, de projeter ton équipe. Parce que déjà, pour projeter ton équipe, il faut que toi-même, tu puisses déjà être au clair avec ce que tu veux et avec ce que tu as envie de révolutionner. Donc non, pour moi, c'est pas choquant que tu l'aies pas au début. Hein. Tu as une idée en tête de ce que tu aimerais faire, mais tu peux être encore plus ambitieux et tu peux retravailler ton sujet. Donc non, ça me choque pas. Hein.
Super intéressant. Écoute, j'aime bien ce sujet et je pense que ça fait partie des points hyper importants quand tu as envie d'emmener ta boîte loin. C'est d'avoir de formaliser cette vision, d'être hyper clair là-dessus, parce que derrière, comme je le disais, ça va impacter vraiment tous les métiers, même la tech. Donc merci beaucoup pour tes retours. J'ai pas de conclusion, tu vois. On a balayé un peu tous les sujets. Merci déjà. Et peut-être juste pour terminer rapidement, c'est quoi la prochaine échéance pour toi? C'est quoi la prochaine actu?
Prochaine actu, 15 septembre, on commercialise le produit.
Ok.
Donc, Zelic dans les bacs, on commence à vendre et j'ai hâte parce que là, ça fera 9 mois, donc on a travaillé en chambre sur le produit. Bon, on a déjà des bêta-testeurs sur la plateforme. Mais bon, ça va être une étape en plus de commercialiser.
Trop bien. Bah, écoute, on va suivre ça avec attention et je crois que l'épisode sortira une petite semaine avant. Donc, merci beaucoup, Dorian. C'était très cool d'avoir tes insights sur tous ces sujets-là. J'espère que c'est un format qui vous aura plu. J'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. D'habitude, on repart de la genèse et on balaye allez, 2 à 3 sujets max. Là, on en a fait plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à remercier Dorian voilà, sur LinkedIn, sur les réseaux, par rapport à tout ce qu'il a partagé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Merci, Eric. Salut, Dorian.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu 1 ou 2 conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, SECLET. Encore merci et à la semaine prochaine.